Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission, votre émission de l'été, Les coulisses de la mémoire. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un auteur de théâtre qui a eu un succès phénoménal pendant une certaine période, Henri Bernstein. Henri Bernstein est né en 1876, il est mort en 1953. Il a écrit des pièces, je le disais tout à l'heure, qui ont eu un succès phénoménal. Et en même temps, autour de lui, il y a toujours eu un parfum de scandale. Il était fils d'un banquier juif. Et au moment où la France était en proie au remous de l'affaire Dreyfus, on ne lui a jamais pardonné. Au passage, pour la petite histoire, je vous signale qu'il existe un portrait célèbre de Édouard Manet, le portrait de Henri Bernstein, enfant. Que reste-t-il aujourd'hui d'Henri Bernstein? Son nom est revenu à la une de l'actualité en 1986, lorsque Alain René a fait un film à partir de sa pièce Mélo, avec Pierre Arditi, avec André Dussolier notamment. C'était une pièce qui datait de 1929. Il a été aussi à l'honneur en 1949 lorsque Jean Gabin a créé une de ses pièces qui s'appelait La Soif. Et c'est la seule fois où Jean Gabin a joué sur scène une pièce de théâtre. Avant, il avait été boy de revue, mais il n'avait jamais joué de pièce de théâtre. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une pièce créée en 1933 qui s'appelle « Le Bonheur ». Avec une distribution extraordinaire pour l'époque. Dans le rôle principal, Yvonne Printemps. À ses côtés, Michel Simon. Charles Boyer, qui n'était pas encore parti faire une carrière au cinéma aux États-Unis. Jean Debucourt. De quoi s'agit-il ? Oh, une histoire, une intrigue assez simple. Clara est vedette de variété, vedette de théâtre, vedette de cinéma. Elle ne peut faire un pas dans la rue sans être assaillie par une horde d'admirateurs et, évidemment, d'admiratrices, jusqu'au jour où, en sortant du théâtre, un inconnu lui tire dessus. Grand émoi dans la presse, les journaux en feront leur grand titre. Oh, elle n'est pas gravement blessée, mais suffisamment pour qu'il reste une cicatrice que les producteurs de cinéma se hâteront d'exploiter au cours de son prochain film. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ce Philippe, il s'appelle Philippe, attiré sur Clara. Nous sommes au tribunal. Philippe se présente comme un antisocial. Nous, antisociaux, nous croyons à la propagande par le fait. Encore faut-il procéder avec clairvoyance. Nous devons avant tout prévoir, estimer la publicité promise à nos initiatives. Le problème du choix est devenu très délicat. Nous écartons d'abord les souverains chefs d'État et pontifes. Les atteintes seraient données à notre acte une couleur antinationale ou antireligieuse, alors que nous sommes entièrement indifférents aux querelles des pays et des sectes qui composent la société organisée. Décidé à braver le sentiment universel en abattant une grande idole, je me suis trouvé par voie d'élimination réduit à la chercher, non plus parmi ceux qui détiennent la puissance, mais bien parmi ceux qui dispensent le plaisir. Oh, je ne me suis pas arrêté, bien entendu, aux créateurs d'art, écrivains, musiciens, peintres, etc., dont les noms sont de plus en plus ignorés. Non, j'ai vite conçu que la gloire moderne était réservée à deux catégories de virtuoses, ceux du sport et ceux du cinéma. L'hésitation ne m'était permise qu'entre un champion et une star. Pas d'autres ressources. Au passage, je rappelle que la pièce est de 1929. Un des jurés veut absolument que Philippe soit affilié au Parti communiste. Monsieur le troisième juré, le président, vous avez une question à poser? Oui, monsieur le président, je voudrais savoir si l'accusé est affilié au Parti communiste. Réponse de l'accusé. Le communisme ne nous apparaît que comme une forme évoluée et perfectionnée du système en vigueur en France. Entre les deux, nous ne faisons aucune distinction d'aucune sorte. Toutefois, cette nouvelle discipline sociale est plus jeune, plus forte que la vôtre, partant plus cruelle, et je note que les soviets ont torturé et mis à mort beaucoup d'hommes qui pensaient comme moi. C'est là d'ailleurs une simple remarque. Nous n'avons, socialement parlant, ni amis, ni ennemis, ni sympathie, ni rancune.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Le procès se poursuit. Arrive en témoignage le mari de la vedette, le mari de Clara. Le mari de Clara, c'est un prince qui n'a plus rien, complètement décavé, et qui vit comme un maquereau, on peut dire, richement entretenu. Et voici son témoignage au tribunal. Celui qu'elle interroge est l'avocat de Philippe. Vous avez donc vécu jusqu'ici sans travailler?
Oui.
Vous possédez sans doute une fortune personnelle?
Non.
Tout au moins une jolie aisance?
Non.
Avant d'être marié, quelles étaient vos ressources?
Je recevais une pension de ma famille.
Une forte pension?
Non.
Vous avez contracté de grosses dettes, n'est-ce pas?
Oui.
Un de vos créanciers vous a même intenté un procès qui a fait quelque bruit?
Oui.
C'est à Paris que vous avez rencontré Mademoiselle Clara Stuart?
C'est à Venise, enfin, au Lido.
Ayant épousé cette actrice illustre, et malgré votre oisiveté, vous ne vous êtes pas opposé à ce que votre femme continuât de travailler, d'exercer sa profession?
Non.
Et les dettes dont nous parlions, vous les traitenez toujours après vous?
Non.
Elles ont été réglées au moment de votre mariage?
Oui.
Par votre famille?
Non.
Pas par Mlle Clara Stuart?
Si.
Et depuis lors, vous menez auprès de votre femme, de la princesse de Chopé, une vie que l'on peut qualifier de somptueuse?
Oui.
Arrive toujours au tribunal la principale intéressée, c'est-à-dire Clara, la vedette. Et alors là, et c'est sans doute le principal intérêt de cette pièce, on a droit à un numéro de théâtre assez extraordinaire. Clara demande au juré d'acquitter celui qui lui a tiré dessus. Messieurs les jurés, lorsque je suis monté dans ma voiture ce malheureux jour, parmi tous les visages qui se pressaient à la fenêtre, je n'y distinguais qu'un visage. Mais il était si pâle, si désespéré que j'en ai été ému jusqu'au fond du cœur.
Je voyais les lèvres de cet homme trembler, ses yeux brûlants se fixer sur les miens, comme s'il voulait que je lui vienne en aide, que je le défende contre quelque chose de mystérieux. Ah ! Que n'ai-je eu un geste à ce moment-là, une inspiration, il m'arrive. Souvent, c'est très enfantin de vous raconter cela. D'envoyer des baisers à tous ces chers petits, mais inconnus qui m'attendent à la porte du théâtre. Ou bien je jette des fleurs, ils se battent pour les attraper. Dire qu'une rose, une de ces roses dont j'avais plein les bras, aurait peut-être tout empêché. Aurait peut-être sauvé un homme de lui-même. Philippe éclate de rire. Accusé, veuillez garder le silence bien, monsieur le président. Je m'efforcerai de réprimer mon hilarité. Je ne suis pas vexé de faire rire, je m'y attendais. Mais qu'il rit tant qu'il voudra. J'ai découvert ce que signifiait ce regard qui m'avait tant bouleversé. Il soutenait une terrible lutte intérieure. Il était là pour remplir une mission qui s'était donnée. Et il était déchiré entre sa volonté et ses instincts, qui ne sont pas ceux d'un homme cruel. Je suis sûr que non. Et il faut me croire, il faut croire. Ceux qui ont vu la mort de très près, et je peux dire que je suis du nombre. Messieurs les jurés, je vous parle avec toute mon âme, je vous jure qu'il a payé sa dette. Il a été effroyablement frappé, brutalisé. Si vous le punissiez davantage, c'est moi qui aurai des remords. Et bien entendu, après un tel numéro de haute voltige, l'accusé est acquitté et Clara, la vedette, le reçoit chez elle. Elle pense qu'elle va pouvoir refaire sa vie avec lui. Mais lui est trop lucide et il se sépare définitivement. Je vous remercie de m'avoir écouté.